Bonjour à toutes et à tous. Notre émission « Je suis venue vous lire » continue, malgré cette période invraisemblable et inimaginable. Confinés tout comme vous, nous avions envie, avec Michel, de vous faire partager, une fois de plus, nos lectures, notre musique. Alors aujourd'hui, et avec les moyens du bord, chacun chez soi, on vous propose une nouvelle émission. Connais-tu la nouvelle ? Histoire courte, racontage ou petit récit, dit à une, deux ou quatre voix, avec Frédéric Magnien, Pierre Ostoya et Jisoo Young. Des nouvelles qui portent un regard tantôt grave, tantôt drôle sur le monde qui nous entoure. Alors en voici une. Une petite histoire, le pêcheur et l'homme d'affaires.
Un riche homme d'affaires était en vacances en Inde. Un matin, sur la grève, il aperçut la barque d'un pêcheur qui rentrait.
Oh là ! La pêche a été bonne ?
Le pêcheur lui sourit et lui montra quelques poissons posés au fond de sa barque.
Oui, c'est une bonne pêche.
Il est encore tôt, je suppose que tu y retournes.
Y retourner ? Mais pourquoi faire ?
Mais parce qu'ainsi tu en auras plus.
Mais pourquoi faire ? Je n'en ai pas besoin.
Quand tu en auras plus, tu les revendras.
Mais pourquoi faire ?
Tu auras plus d'argent.
Mais pourquoi faire ?
Tu pourras changer ta vieille barque contre un joli petit bateau.
Mais... pourquoi faire ?
Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons.
Mais pourquoi faire ?
Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers.
Mais pourquoi faire ?
Ils pêcheront pour toi.
Mais pourquoi faire ?
Tu deviendras riche.
Mais pourquoi faire ?
Tu pourras ainsi te reposer.
Le pêcheur le regarda alors avec un grand sourire.
C'est justement ce que je vais faire tout de suite.
Alors, et vous ? Seriez-vous du genre pêcheur ou homme d'affaires ?
Délavé de visage et fané de costume, les vieux marins pêcheurs, quand il fait soleil, sur le quai, tête doucettement, leur pipe qu'ils allument à la flamme géante et ridicule. Un briquet, c'est mieux que l'amadou, c'est le briquet tempête, un lourd gagné jadis à la tombola du mois d'août ou cadeau du neveu qui sur le Lafayette a servi matelot et l'a rapporté, qui sait d'où. Cet objet de bazar dans une main qui tremble est souvenir du temps où même en hiver et la nuit quand ça soufflait du nord et de l'ouest tout ensemble ils emplissaient le port de rires, d'appels et de bruit comme un verre fumé pour regarder l'éclipse. Le ciel était en deuil comme était en deuil l'océan et les marins pêcheurs. Cet apocalypse jetait leurs filets bleus dans des ténèbres de néant. Mais chacun se disait, il faut bien que j'y aille, j'ai bon pied, j'ai bon œil, et le jour revient. À la fin et de retour au port, tout scintillant d'écailles, ils allumaient leur pipe, heureux d'avoir soif. Avoir faim, ils allaient boire un litre à deux, trois camarades, disant à nos santé, sans imaginer que le temps aux portes des bistrots se tient en embuscade, et puisqu'il a le temps, comme un chien fidèle, il attend. Le temps, jour après jour, patiemment et sans haine, nous vole quelque chose, un cil, trois cheveux. Une dent, on met des peaux de chat et des chandails de laine, mais même en plein soleil, on se sent glacé. Bien souvent, les vieux marins pêcheurs, au pied du sémaphore, lèvent vers l'horizon un humble regard. Machinal et la mer éternelle est là qui les ignore et leur barque pourrie dans le cloaque du chenal.
Cette nouvelle nous vient de Didier Denynx. Ancré dans la réalité politique et sociale de notre siècle, Didier Denynx écrit des romans policiers, mais également de nombreuses nouvelles, comme Le Reflet, extraite du recueil Main courante. Alors on retrouve dans ce texte, bref, un des thèmes chers à l'auteur, celui du préjugé et du regard que l'on porte sur les autres et sur soi-même. Dans cette nouvelle, Didier Denynx aborde la question du racisme de manière assez étonnante.
Toujours en train de gueuler, d'éructer, d'agonir. Derrière son dos, ça fusait les insultes. Le porc, l'ordure, le fureur. Impossible de tenir autrement. Les courbettes par devant, les salamalecs, le miel, le cirage et l'antidote, dès la porte franchie. Apprendre à sourire dans le vide, en serrant les dents. Le pire, c'était les premiers temps, quand on arrivait à son service, alléché par le salaire de $1,000 nourri-logé. Il vous laissait approcher, en vous regardant de ses yeux morts, et vous plaquait les mains sur le visage, vérifiant l'ourlet des lèvres, l'épatement du nez, le grain de la peau, le crépus des cheveux. Au moindre doute, le vieux se mettait à hurler de dégoût. « Enfant de pute, virez-moi ça, c'est un noir !» Le type y allait de sa protestation. « Non, monsieur, je vous jure, mais ça ne servait à rien. » Et il repartait, plein d'amertume. L'aveugle habitait un château, construit à flanc de colline, à quelques kilomètres de Westwood, et toute la communauté vivait en complète autarcie sur les terres environnantes, cultivant le blé, cuisant le pain, élevant le bétail. Le vieux ne s'autorisait qu'un luxe, l'opéra et les cantatrices blanches, qu'il faisait venir chaque fin de semaine et qui braillaient, toutes fenêtres ouvertes, affolant la basse-cour. Il ne dormait pratiquement pas, comme si l'obscurité qui l'accompagnait depuis sa naissance lui épargnait la fatigue. Ces gens lui devaient 24 heures quotidiennes d'allégeance. Le toubib vivait en état d'urgence permanent et tenait grâce au cocktail de Valium et de Temesta qu'il ingurgitait matin, midi et soir. Le vieux prenait un malin plaisir à l'asticoter, contestant ses diagnostics, refusant ses potions. Ces persécutions n'empêchèrent pas le docteur d'avertir son patient de la découverte d'un nouveau traitement qui parvenait à rendre la vue à certaines catégories d'aveugles. Le vieux embaucha une douzaine d'enquêteurs ariens et leurs investigations établirent que le procédé en question ne devait rien au noir. On fit venir à grands frais la sommité et son bloc opératoire. Le vieux se coucha de bonne grâce sur le billard et s'endormit sous l'effet du pain total. Il se réveilla dans le noir absolu et demeura 3 longs jours, la tête bandée, ignorant si ses yeux voyaient ou non. Le chirurgien retira enfin les pansements. Le vieux ouvrit prudemment les yeux et poussa un énorme cri. Un noir, à l'air terrible, lui faisait face. Il se tourna vers le chirurgien, terrorisé. « Qu'est-ce que ça veut dire? Foutez-le dehors !» Le toubib, qui nettoyait les instruments, s'approcha doucement de lui, posa la main sur son épaule et l'obligea à regarder droit, devant lui. « Alors, il faut que vous sortiez, dit-il. Ce que vous avez devant vous s'appelle une glace, monsieur. » Et ceci est votre reflet.
Il faut vraiment que je raconte tout ça. Tout depuis le début, quoi.
Une journée qui démarrait normalement. Je me suis réveillé super tard, donc pour l'instant, pas de changement. Soudain dans le ciel, un coup de tonnerre. Puis je vis une lumière, les nuages se dégagèrent, le vent souffla.
Tremble la terre.
Je suis un chevalier de bronze à cause de ça. Je suis dans la mouise. J'espère que c'est pas le Seigneur, m'appelle Seigneur, moi, pas Moïse. Eh ben si, c'était lui et le Seigneur. Il m'a dit
t'es midi, tu seras blanc pendant 9 semaines et demie.
Oh là, regarde.
bloc au vent. Bien sûr Dieu s'amuse avant de répondre, il laissa un blanc semblant de rien, je tente de m'enfuir. Je me mets à courir, mais il était déjà trop tard, je vis mon épiderme blanchir. Alors j'étais blanc de partout, il a fait gaffe même aux détails. J'ai vérifié ma louloute, j'ai honte, je vous dirai pas la taille. Et pourquoi tu m'as fait ça? Franchement je le méritais pas, mais que Jackson tu le connais pas, ça fait 30 ans qu'il attend que ça.
Argent, logement, les flics, les gens, commun, changement, depuis, j'suis blanc. Argent, logement, les flics, les gens, commun, changement, depuis, j'suis blanc.
Depuis que je suis blanc, il faut voir tout ce qui m'arrive. Avant les flics qui me poursuivaient, là j'ai l'impression qu'ils m'esquivent. Je te jure un truc de fou, les mecs ils viennent plus me contrôler. À la fin ça me manquait tellement, j'étais obligé de les supplier. Un jour je leur ai dit, hey, j'ai du shit quand même les mecs, hein. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu?
Eh hey, vous êtes un marrant vous monsieur, on vous aurait presque cru à la vieille.
Un autre truc en boîte, et ben je sais plus danser. Et pourquoi je me plaindrais, il me fait pur fouler à l'entrée. Fini la bouffe africaine, le pont de l'fou, fou, le fou moi.
Maintenant si ça va de niçoise, on m'en plus écrit à l'Auvergnat. En plus ma voix elle est comme ça. Oh non mais je te jure, je déconne pas, l'autre jour j'appelle mon père au téléphone, le mec il me reconnaissait pas.
Hé, hey, mais qui fait des blagues là? Mais Camille va pas comme ça? Imbécile, je travaille moi.
Maintenant quand je suis surpris, moi je fais plus hé. Maintenant je sors des phrases du style,
oh là, sans déconner, c'est vrai.
Argent, logement, les flics, les gens, commun, changement, depuis, j'suis blanc. Argent, logement, les flics, les gens, commun, changement, depuis, j'suis blanc. Argent,
j'te jure la vie n'est plus pareille.
Les flics,
j'ai même chauffé un coup de soleil.
Commun,
maintenant quand j'vais au magasin,
depuis,
t'as plus le visage d'une gâte de loin.
Argent,
j'te jure la vie n'est plus pareille.
Les flics,
j'ai même chauffé un coup de soleil.
Commun,
maintenant quand je vais au magasin,
depuis,
t'as plus le vigile qui me gâte de loin.
Les éditions pneumatiques nous offrent des tas de petites histoires, à la fois drôles, poétiques, étonnantes. Alors en voici une de Vincent Cuvelier, Papa Clown.
Aujourd'hui, à l'école, on a mangé des gâteaux. C'est comme ça toute la semaine. La maîtresse a demandé à nos parents de venir expliquer leur boulot, et comme le père de Boulingrin est pâtissier, ben voilà, on a mangé des gâteaux. On a commencé lundi avec la mère de Radisson. C'était bizarre parce que la mère de Radisson, elle travaille dans une banque et on lui a tous demandé des sous. Elle a dit qu'elle pouvait pas. Mais pourquoi madame, puisque dans une banque il y a plein de sous? Oui, mais non Jojo, ce sont pas mes sous, ce sont ceux des gens. Mais pourquoi ils gardent pas leurs sous, les gens? Mais je sais pas, moi... La mère de Radisson, à la fin de la journée, elle savait plus pourquoi elle travaillait dans une banque. Mardi, il y a eu le papa de Ifto. Il est boucher. Au début, tout le monde trouvait ça chouette, boucher, comme métier. Et puis à un moment, Candice Bornichard a compris que pour faire des saucisses, il fallait d'abord tuer des petits cochons. Alors on a moins trouvé ça chouette, boucher. Jeudi, donc, on a mangé des gâteaux. Et jeudi soir, la maîtresse m'a dit... Jojo, t'as pas oublié. Demain, c'est au tour de ton papa de venir nous présenter son métier. Non, j'ai pas oublié. Ça fait même une semaine que je dors pas à cause de ça. Le matin, on est arrivé en retard. Tout le monde était déjà en rentrée, sauf Robert Taboulet, un copain qui parle tout le temps. Mais là, Norbert Taboulet, il dit plus rien du tout. Il me regarde les yeux ronds comme des queues de pelle, une goutte de sueur sous le front. Jojo! Quoi? Il y a un clown derrière toi. C'est pas un clown, je soupire. C'est mon père. Ton père? Eh oui. Norbert fronce les sourcils et réfléchit. Mais non, c'est pas ton père, je te jure qu'il y a un clown derrière toi. Je laisse tomber. Papa me dit, c'est qui ce petit garçon à l'air mignon? C'est pas un petit garçon, je réponds. C'est Norbert Taboulet. Je suis avec lui depuis la maternelle. Il est déjà venu à la maison. Ah, Je m'en rappelle pas, je devais être au cirque. Les enfants, dit la maîtresse, aujourd'hui on continue à découvrir les métiers de vos papas et de vos mamans. Je commence à me cacher sous la table. C'est au tour du papa de Jojo. Vous pouvez entrer, monsieur. Ça y est, je suis sous la table. Mon père entre avec ses grandes chaussures, son chapeau qui fait mmm, sa fleur qui fait cuit-cuit, son gros pif rouge, un clown, quoi. Dans la classe, tout le monde est paralysé, bouche bée, yeux ronds. Il y a même Candice qui se met à pleurer. « Bonjour les enfants !» crie mon père. « Voilà, vous avez tous compris, le papa de Jojo exerce la profession de clown. Vous savez bien ça, monsieur ?»«
C'est ça, madame la maîtresse !»
hurle mon papa. Mais vu la tête qu'elle fait, la maîtresse, mon père se calme et répond « Je voulais dire oui, c'est cela, madame l'institutrice. » Bien, les enfants, vous pouvez poser des questions. Quentin Pommier lève le doigt le premier. Oui, Quentin, quelle est ta question? Pourquoi vous travaillez pas, monsieur? Mon père ne rigole plus. Je travaille, c'est mon métier, clown. Candice rajoute, mais monsieur, c'est pas un métier, clown. Mais si, c'est un métier, il fait quoi ton papa à toi? Bah, il travaille, lui, il est comptable. Mon père gratte un peu son nez rouge et bredouille. Eh bien, moi, mon métier, c'est de faire rire les enfants. Et il appuie sur sa petite fleur. Trois gouttes d'eau tombent à ses pieds. Mais ça ne fait rire personne. Mais, demande Roberto, pourquoi vous n'avez pas un travail normal? Les joues vertes de mon père deviennent toutes blanches. Mais, enfin, c'est super comme métier, clown. Y a personne qui a envie d'être clown plus tard? Tout le monde baisse les yeux. Candice lève le doigt. Toi, Candice, dit la maîtresse, tu veux être clown quand tu seras grande? Non, madame, moi je veux aller faire pipi. Norbert Taboulet se penche et me souffle à l'oreille. C'est bizarre quand même d'avoir un papa clown. Je sais. Je soupire. La maîtresse, elle, ne se démonte pas du tout et fait comme si c'était normal d'avoir un type avec des grandes pompes et un nez rouge dans sa classe. Bon, les enfants, ça suffit les questions, le papa de Jojo va nous montrer ce que c'est son métier. Alors, mon père se place en face de la maîtresse, appuie sur sa fleur en plastique et pfft, arrose la maîtresse. Toute la classe sursaute. Les enfants regardent la maîtresse, ils retiennent leur respiration.
Oh, il est fou ton père, il va être puni!
Mais la maîtresse sourit. Puis rigole complètement. Alors tout le monde éclate de rire. Mon père approche de Candice et lui tend la main. Candice a un peu peur, mais serre la main de mon papa quand même. Et ça fait pouet pouet. C'est bien quand ça fait pouet pouet. Moi aussi ça me fait rire. Il est rigolo ton père, me dit Norbert Taboulet. Ça sonne. Mais on rigole tellement que personne ne pense à sortir. Ça frappe. La porte s'ouvre. Une dame policier entre dans la classe. On l'a tous vu, sauf papa. Tout le monde arrête de rire. D'un coup. Mon père, lui, continue à faire des proutes, des pifs et des pafs. Norbert dit « Monsieur, monsieur, il y a la police qui vient vous arrêter !» Papa se retourne et dit « La peau !»«
Ah, c'est toi, ma chérie, tu as passé une bonne journée !»«
Bonjour, dit la policière à la maîtresse. Je suis la maman de Jojo. » Comme j'ai fini un peu plus tôt, je me suis dit que j'allais le chercher à l'école. Ça ne vous gêne pas, j'espère. Alors là, tout le monde fait
« Waouh ! La chance !»
Je me lève de ma chaise et on sort tous les trois de la classe. Je prends la main de maman, elle est douce. Je prends la main de papa, elle s'est proute.
Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. fiacre assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Que ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo, bravo.
Toujours dans la collection pneumatique, une autre nouvelle, celle d'Alban Gélé. Où vont les mots ? Voilà ce que j'ai fait ce matin, quelque chose de très simple. J'ai choisi, dans un tiroir où je range toutes sortes de petits trésors, 27 ballons de toutes les couleurs. J'ai ensuite disposé devant moi 27 petits morceaux de papier. J'ai écrit dessus toutes sortes de mots, un mot par petit carré de papier. Des mots très pratiques, comme parapluie ou panier à salade. Des mots plus encombrants, comme igloo, baleine ou bien armoire. Des mots très calmes aussi, comme nénuphar ou enveloppe. Et d'autres mots encore, comme cheval, pelote, averse. Puis, j'ai glissé un mot à l'intérieur de chaque ballon. Une fois que chaque ballon a eu son mot, j'ai gonflé tous les ballons. C'est ce qui a été le plus fatigant, parce que je n'ai pas beaucoup de souffle. J'ai repris ma respiration et je suis allée dehors, en tenant tous mes ballons par les ficelles. Deux gros bouquets, un dans chaque main. Les rues n'étaient pas désertes, j'entendais quelques bruits de pas et puis le vent qui soufflait fort. J'en ai profité pour lancer tous mes ballons, un par un. Certains s'élevaient assez vite, avant de redescendre doucement. On aurait dit de petites montgolfières. D'autres roulaient par terre, s'arrêtaient, repartaient. J'ai pris le temps de regarder leur danse, et j'ai vu des mains qui finissaient par les attraper, des mains d'enfants, mais pas seulement. J'ai alors aperçu un petit garçon qui avait attrapé trois ballons à lui seul. Je l'ai observé quelques instants. Les mots s'étaient décollés de leur carré de papier. Les mots s'échappaient des ballons que le garçon tenait dans ses mains. Il sautait sur lui, voletant à la manière de petits insectes de l'été. Il entrait à l'intérieur de lui aussi. Et il y avait de plus en plus de mots, comme si les trois mots de ces trois ballons en avaient appelé d'autres. Je reconnaissais les mots des autres ballons, partis plus loin, attrapés, envolés, et j'en découvrais d'autres, des nouveaux, que je n'avais pas écrits. Le mot « enveloppe » entourait ses poumons. Un autre, « hélicoptère », bougeait dans ses cheveux. Et un autre s'était installé tout au fond de ses bottes. Je crois que c'était le mot « cœur ». Un autre encore, peuplier, lui chatouillait la gorge. Certains gigotaient ensemble, par petits paquets. Ils étaient là, avec lui, ils bondissaient, il crapahutait. L'enfant, lui, riait. ne s'arrêtait plus de rire.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers, et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.
Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les béguins,
des mots d'ordre pour les ordonnés,
des mots fléchés
pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
On change complètement de registre et on se retrouve dans le bureau du gouverneur de l'Ohio. Nous sommes en 1972.
Retranscription d'une réunion entre l'honorable Raymond Zusatz, gouverneur de l'État d'Ohio, M. Joseph Lindbergh, attaché au gouverneur, M. Neil Obstah, attaché au gouverneur, et M. Ed Roy Wansey, vice-président d'Industriel Desert Design, Dallas, Texas, le 21 juin 1972.
Messieurs, ça ne va pas.
Bah, qu'est-ce qu'il y a, chef ?
C'est l'État qui ne va pas, Neil. Il y a quelque chose qui cloche dans notre État.
Mais chef, le chômage est bas, l'inflation est sous contrôle. On n'a pas augmenté les impôts depuis 2 ans. La pollution est au minimum, sauf pour Cleveland. Mais tout le monde se fout de Cleveland. Ah, je plaisante, Neil. Mais chef, les gens vous aiment. Vous êtes plus haut que jamais dans les sondages. Les investissements dans l'industrie et le développement de l'État atteignent un niveau jamais vu.
Stop ! Nous y voilà.
Oh, bah, vous pouvez expliquer, chef ?
Tout va trop bien. Je soupçonne un piège.
Un piège ?
Les gars, l'État se ramollit. Je sens la mollesse partout. Nous sommes en train de devenir une immense banlieue. Un parc industriel et un centre commercial. Trop de développement. Les gens ont trop confiance. Ils oublient comment cet État a été arraché aux étendues sauvages. Il n'y a plus rien à arracher.
Ah, m'a rien pour un chef.
Nous avons besoin de terres en friche.
Des terres en friche ?
Messieurs, il nous faut un désert.
Un désert ?
Un désert, messieurs. Un point de référence sauvage pour toute la population de l'Ohio. Un lieu de peur et d'amour. Une région dévastée. Quelque chose qui nous rappelle ce à quoi nous avons été arrachés. Un lieu dépourvu de centres commerciaux. Un autre, pour le moins, de l'Ohio. Des cactus, des scorpions, et un soleil qui cogne de la désolation. Un endroit où déambuler seul, ou réfléchir. Loin de tout, un désert, messieurs.
Une idée géniale, chef.
Merci, Neil. Messieurs, laissez-moi vous présenter Monsieur Ed Roy Yancey d'Industrial Desert Design à Dallas. C'est eux qui ont fait le Koweït.
Il paraît qu'il y a beaucoup de déserts au Koweït.
Et comment, Joe? Nous sommes convaincus que nous pouvons vous fournir un désert de premier choix. Ici, dans...
L'Ohio.
Et le prix?
Raisonnable.
Où le placerait-on?
Eh bien, messieurs, le gouverneur et moi-même en avons discuté. Et si je peux attirer votre attention sur cette carte, ici. L'emplacement auquel nous avons pensé se situe dans le sud de votre grand état, juste ici, de là à là, en fait. 160 kilomètres carrés.
Autour de Conwell?
Ouais.
Il n'y a pas des gens qui habitent dans cette région?
Relogement, prérogative de l'État. Le désert n'a aucun respect pour l'homme. Ça colle avec le concept.
C'est proche du parc naturel de Wayne aussi, non?
Plus maintenant.
Ma mère habite tout près de Kenwell.
Ça fait mal, hein, Neil? C'est le concept. Le concept, c'est de faire mal. C'est violent d'arracher. Neil, nous allons arracher des étendues sauvages au ventre mou de cet État. Et ça va faire mal.
Vous êtes vraiment emballé par cette idée, n'est-ce pas, chef?
Rien ne m'a jamais emballé davantage, Joe. C'est ce qu'il faut à cet état, je le sens.
Oh, vous allez entrer dans l'histoire, chef. Vous serez immortel.
Merci, Neil. Je sens que c'est la chose à faire. Et la discussion avec Monsieur Yancey m'a emballé. Plus de 100 kilomètres de... rien. De sable blanc, aveuglant. Bien sûr, il y aura des lacs pour la pêche sur les bords, pour que les gens puissent pêcher.
Pourquoi du sable blanc, chef? Pourquoi pas, disons, du sable noir?
Développé, Joe.
C'est-à-dire, si l'idée c'est de créer du contraste, de l'altérité, un endroit dévasté, j'oserais dire sinistre. Sinistre. C'est comme ça que je le perçois.
C'est bien. Sinistre. Ça colle.
Et l'Ohio est un état plutôt blanc. Les routes sont blanches, les gens ont tendance à être blancs, le soleil brille. Quoi de mieux que des kilomètres de sable noir pour créer du contraste? Ce serait d'un sinistre. Sans compter que le sable noir retiendrait beaucoup mieux la chaleur. Il ferait très chaud. Ça renforcerait le côté dévastation.
Ça, j'aime. Ed Roy, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les cactus et les scorpions peuvent vivre dans un sable noir?
Je n'y vois aucun problème.
Et le prix du sable noir?
Certainement un peu plus élevé. Il faudra que j'en parle au gars du département sable. Mais je dois pouvoir m'engager sur un tarif convenable dans le cadre global du projet.
Vendu!
On commence quand?
Tout de suite, Joe! Arracher est un acte violent et rapide par nature.
Chef, laissez-moi vous dire que je suis enthousiaste. Hein. Je vous félicite d'homme à homme et de citoyen à gouverneur.
Merci, Neil. Vous feriez mieux d'aller appeler votre mère, mon ami.
Oh, très juste. Quel nom allons-nous lui donner, chef?
Quel nom? Excellente question, Joe! Je n'avais jamais pensé au problème du nom.
Est-ce que je peux proposer quelque chose?
Allez-y.
Le grand désert d'Ohio.
Le grand désert d'Ohio?
Oui.
Un super nom, Joe! Je vous tire mon chapeau, bien joué, une fois de plus, génial. Ça sous-entend la taille, la désolation, la majesté, et ça dit que c'est dans l'Ohio.
Ce n'est pas un peu présomptueux?
C'est parfaitement assorti au concept.
Moi aussi, hein. Je te tire mon chapeau. Hein.
Sacré bon nom, Joe.
On est prêt? Le concept, le désert, la couleur, le nom. Il ne reste plus qu'à arracher.
Alors on va s'y mettre.
Thank you. soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio. 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 For dead in Ohio.
Et si un soir, on allait se cacher, sans se faire voir, dans un musée, qu'est-ce qu'on pourrait bien y entendre? Qu'est-ce qui pourrait bien s'y passer?
Tableau d'une exposition.
J'écoute Moussorski en travaillant. Promenade, tableau d'une exposition. Une salle dans un musée vide. Le monde a été confiné. Dans la salle dédiée à Vermeer, les tableaux s'ennuient. Après quelques jours, l'un d'eux, un grand tableau, 1m50 à peu près, se décide à parler. Il s'adresse au petit tableau en face de lui.
Hé, hey, la vieille là, en face.
Oui, mais parle plus bas.
Écoute.
Moins fort. S'il se rendait compte qu'on parle, il nous enverrait directement en restauration.
Ah, t'as raison. J'ai horreur qu'on me tripote, mais dis-moi, qu'est-ce que je représente?
Quoi?
Qu'est-ce que je représente là, sur moi? Ça représente quoi?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
C'est important! Qu'est-ce qu'il a peint sur moi, ce Vermeer? Je voudrais pas qu'il ait fait n'importe quoi. J'aimerais pas qu'il ait fait comme sur toi, une laitière. Juste une laitière, ça fait pas classe.
Quoi? Moi? J'ai une laitière sur moi? Une vache?
Mais non, couillonne, pas une vache, une sorte de servante, paysanne servante, 20-22 ans.
Une servante? Et ça intéresse les humains, ça?
Bah, faut croire, depuis 400 ans.
Mais qu'est-ce que fait cette servante?
Elle verse du lait.
C'est tout?
Ouais. Devant une fenêtre.
C'est tout?
Ouais, toute gentille, elle a l'air concentrée. Ou elle pense à autre chose, on sait pas.
C'est tout?
C'est ça. Elle a l'esprit ailleurs.
C'est tout?
Ouais.
Si peu! Incroyable! Mais peut-être que c'est toi qui ne sais pas décrire.
Bon, écoute, la vieille, c'est moi qui t'ai demandé de me décrire, alors vas-y, on va voir si tu es plus maligne. Allez, qu'est-ce qu'il a peint sur moi, le Vermeer? Je suis bien plus grand que toi et il devrait y avoir plein de choses à voir. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est devant toi qu'ils s'arrêtaient tous.
Il y a 4 personnages, 3 hommes et une femme. 2 hommes sombres, un peu en retraite, et un homme rouge penché sur la femme. Les hommes sombres ont des regards concupiscents et l'homme en rouge a une main posée sur le sein de la jeune femme.
Et puis?
Elle tend une main dans laquelle l'homme en rouge semble laisser tomber quelques pièces.
Et?
Doucement. Dans l'autre main, la jeune femme tient une grande coupe de vin. À côté, une carafe bleue. Et en bas, un magnifique tapis.
Ça va, le tapis, on s'en tape.
La jeune femme...
Quel âge?
28-30 ans. Elle a un corsage, un bustier jaune, un peu dégrafé.
Un bustier jaune, tu es sûr? Un bustier jaune?
Oui, une sorte de petite veste serrée jaune et un fichu blanc brodé sur la tête. Elle a un visage ovale, plutôt joli, elle sourit. Elle a les joues bien roses.
Elle a un nez plutôt long, des sourcils un peu forts?
Oui, plutôt, mais comment tu...
T'es dingue! Ouais, laisse tomber, c'est la même.
La même que qui?
C'est la même, quelques années de plus, mais c'est la même.
Mais la même que qui?
La même que sur toi, grosse maline.
Mais non.
C'est la même, je te dis, les manches retroussées, je parie, la tête légèrement penchée, regardant vers la gauche.
Oui, mais...
Alors c'est ça, la petite laitière s'est décidée à vendre ses charmes, et moi je porte une pute depuis 400 ans sans le savoir.
Et c'est ça qui te rend grossier. Ah, ouais. Ce n'est pas une pute, comme tu dis, c'est une entremetteuse.
Comment tu peux le savoir?
C'est marqué en bas, en néerlandais.
Ouais, bah pute, entre maîtresses, c'est pas loin. Ça alors, je boirais bien un coup, moi.
Mais c'est moi que les humains regardent.
Les coquettes, va.
Quand même, c'est moi qu'ils regardent.
Ouais, avec les yeux derrière la tête. Allez, sans recul, je te paye un coup, ça va nous restaurer.
Pourquoi tu m'appelles de la vieille?
C'est quand on était jeunes, tu avais 6 ans de plus que moi et
ça m'impressionnait. J'ai jamais osé te parler.
Et aujourd'hui ?
Je compte plus.
La science-fiction, le fantastique, a inspiré beaucoup d'auteurs, et les nouvelles en sont friandes. Alors en voici une, elle nous raconte une histoire qui se passe en 2200.
La Terre est dirigée par la NH, Nouvelle Harmonie, consortium privé. L'ancienne France a été transformée en parc international d'attractions, le Paradis. La visite de ce parc est la récompense suprême. Tout le monde en rêve, mais peu de gens y ont droit. Dans ce parc vivent un Adam et une Ève en liberté. Ils sont remplacés tous les 10 ans. La visite se fait dans une sorte de camping-car fermé au départ sur les pistes tracées à travers le parc. Elle se fait en famille et dure 3 jours. Nous sommes dans le bureau de l'administrateur. Une famille est reçue par le contrôleur général.
Donc, je résume. Vous dites avoir vu Adam et Ève ensemble en lisière de forêt le 2e jour en fin de journée, c'est bien ça?
Oui, vers 17h.
On dit oui, monsieur.
Oui, monsieur. Enfin, c'est la petite qui les a vus la première. Ensuite, quand elle nous l'a dit, on les a aperçus. Ma femme a vu les deux. Je crois que je n'ai vu que l'homme. Enfin, Adam. Oui, monsieur.
Moi, je les ai bien vus. Ils étaient tout nus et...
Bien sûr.
C'est très clair. Il faisait un temps magnifique. On s'apprêtait à regarder la publicité à la télé. C'est bien sûr que c'était eux. N'est-ce pas, monsieur? On n'a pas pu se tromper. Il n'y a qu'eux qui... Oh là là, quelle chance on a! On va gagner, n'est-ce pas, monsieur?
Nous verrons. Vos stocks de perception visuelle ont été envoyés à l'extraction pour confirmation. Nous n'avons aucune raison de ne pas vous croire, mais vous comprenez, l'entreprise ne peut prendre aucun risque et compte tenu de l'importance du gain... Félicitations en tout cas. Cela faisait bien 20 ans qu'aucun visiteur ne les avait vus. Bravo.
Vous vous rendez compte? On les a vus.
Comment ça va se passer maintenant?
Eh bien, vous serez convoqué au service de promotion. On vous intégrera au programme du bonheur partagé. Pendant une année, vous serez nos nouveaux témoins dans la campagne de célébration. Ensuite, vous verrez, vous serez, comment dire,
libre. Comme on va être heureux.
Et peut-être que toi, tu seras sélectionné pour la prochaine Ève.
Oh, n'est-ce pas, monsieur? Notre fille pourrait être sélectionnée, non?
Bien sûr, les recruteurs viendront peut-être un jour la chercher.
Waouh!
Ils vont nous la prendre?
Comment ils? Ce n'est pas ils, c'est le dresseur lui-même qui s'occupe des sélections et des formations d'Adam et Ève. Excusez-moi une seconde. Allô? Extraction? Ici contrôle. Ah, c'est toi, Jack! On se voit toujours ce soir avec Dom. Oui, bon, d'accord. Et pour le dossier B7421, ça donne quoi? Ouais. T'es sûr? Ils vont être enchantés. Ah. Bon.
On peut pas... Anne, je comprends. Non, c'est juste que ça aurait été mieux pour nous, mais... Bon. Allez, hein, merci. Bien sûr, je fais suivre. À ce soir.
Quand est-ce qu'on peut espérer avoir la confirmation?
Bon, voici comment ça se présente. J'étais avec le service d'extraction visuelle. Entre nous, ce nouveau service est un extraordinaire progrès technologique. Ils ont donc étudié toute votre perception visuelle au cours de votre visite.
Et alors?
Et alors, il n'y a aucun doute, vous avez bien vu Adam et Ève.
Ah,
l'analyse est formelle.
Merci, monsieur, merci mille fois.
Wow. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est la supériorité technologique de votre firme. Et votre perception visuelle ont aussi, comme c'est le protocole, été examinées avec le scanner télégénétique.
Mais nous sommes génétiquement positifs?
Vous? Oui. Par contre, c'est un peu complexe, mais le scanner télégénétique permet aussi l'examen génétique pixelisé des formes vivantes captées par l'œil humain sur des longueurs d'onde lumineuses polarisées au millième d'angstrom.
Et?
Et il se trouve que... c'était des faux. Ce n'était pas Adam et Ève.
C'est quoi cette connerie?
Attention, monsieur. Attention à vous.
Calme-toi, chérie. C'est sûrement une erreur.
Vous voulez insinuer que nos services ont fait une erreur?
Non, bien sûr que non, mais vous comprenez...
Non! C'est à vous de comprendre. Ce que vous avez vu, c'était un homme et une femme nus en lisière de forêt, mais ce n'était pas Adam et Ève. Leurs codes génétiques ne correspondent pas. Il doit donc s'agir de rebelles infiltrés essayant de perturber le réel.
C'est possible, ça?
Non, bien sûr.
Et nous, alors?
C'est un peu compliqué. Il va y avoir une enquête.
Mais nous n'avons rien à voir.
Peut-être, l'enquête le dira. C'est votre fille qui les a vus en premier.
Oui, mais qu'est-ce
que... On va lui faire quelques examens complémentaires. Ensuite, elle sera prise en charge par le nettoyeur pédagogique. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser vivre un enfant qui aurait gardé un faux souvenir de cette importance. Cela provoquerait une tumeur traumatisante. Ce n'est pas douloureux. Elle sera simplement alignée sur sa dernière visite neuronale. Vous deux allez être conduits dans un logement sécurisé en attendant de témoigner.
Mais... témoigner de quoi?
Les rebelles ont infiltré un faux couple dans le paradis. Ils ont provoqué un dysfonctionnement dont vous avez été le témoin.
Involontaire, hein? Totalement involontaire.
C'est à vérifier.
Bon, enfin, monsieur...
Garde! Assurez-vous de leur sécurité.
Mais monsieur...
Calmez-vous. Après le blanchiment mémoriel, vous n'aurez plus à vous faire de soucis. Emmenez-les.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again, oh, oh. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give,
and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may.
Voici une autre nouvelle, une nouvelle courte qui tient en quelques mots. Mais sa particularité, c'est qu'elle est racontée 99 fois de façon différente. Peut-être l'aurez-vous reconnue ? Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau mou, orné d'une tresse tenant lieu de ruban. Bien sûr, vous avez reconnu ? C'est exercice de style de Queneau.
Récit. Un jour, vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus, à peu près complet, la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long, qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin, en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, en grande conversation, avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son par-dessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelque tailleur compétent. Alexandrin.
Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, je vis un foutriquet de je ne sais quelle espèce qui râlait bien qu'autour de son turban il y eut de la tresse en place de ruban. Il râlait, ce jeune homme à l'allure insipide, au col démesuré, à l'haleine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelque voyageur se hissait haletant et poursuivi par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'y eut point d'esclandre, et le triste quidam courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre imbécile dandy, qui disait « Ce bouton, faut pas le mettre ici ».
Surprise. Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus, et ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait? Et ensuite, il ne trouva rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre, au lieu de la laisser à une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare? Le même Codeluro! En train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade! À ne pas croire! Injurieux.
Après une attente infecte, sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. Bah, 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle. Il sera toujours aussi moche, ce sale con.
Italianisme.
Une giorno, in pleno meridione, io sale sulla plateforme d'un autobus
et la quel uomo jevidis. Jevidis, un giovan uomo, o longue col ave de la trece autour del capel. E le dito giovan uomo, oltrage uno povero uomo a chi il rimproverati de lui peste le pie e il ne lui pestare nullmal le pie. Ma quand il vide uno sedie vuote, il corri por sedersi là. A uno a ore de là, gliele revidis, che ascolta le consigue d'uno bellibuste esarbinat a proposto d'une boutonne de par dessous.
Dans l'autobus, dans l'autobus, l'autobus est l'autobus qui dans les rues, dans les ronds, va son chemin à petit bond près de Monceau, près de Monceau, par un jour chaud, par un jour chaud. Un grand gamin au cou trop long porte un chapus,
porte un chapon
dans l'autobus,
dans l'autobus.
Sur le chapus,
sur le chapon,
y a une tresse, y a une trompe dans l'autobus,
dans l'autobus.
Il part de la suce,
il part de la son.
Y a de la presse,
il y a du prompt.
Il grand gamin au cou trop long, ira la brin,
ira la bron,
contre un lapsus,
contre un lapon,
dans l'autobus,
dans l'autobus,
mais le lapsus,
mais le lapon,
pas comme du
pas comme don,
montre ses dents,
montre ses dents,
dans l'autobus,
dans l'autobus,
et le grand gamin
au cou trop long
va mettre ses fesses,
va mettre son fond,
dans le bussesse,
dans le buisson,
sur la banquette
pour les bons cons,
sur la banquette pour les bons cons, moi le poète au quel pompon. Un peu plus tard, un peu plus tôt, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, qu'est une gare pour les bonbons, j'en vis le gamin au cou trop long, et son pardinement des pardons, gars, un copain à un copon,
pour un boutus,
pour un bouton, près de l'autobus,
près de l'autobus.
Si cette histoire,
si cette piston
vous intéresse,
vous interrompt,
n'ayez de cesse,
n'ayez de son,
avant qu'un jour, sur un bussesse,
sur un buisson,
vous ne voyez
les yeux tout ronds,
le grand gamin au cou trop long,
et son chapus,
et son chapon,
et son boutus,
et son bouton,
dans l'autobus,
dans l'autobus, l'autobussesse,
l'autobussesse,
l'autobusson.
Notre émission touche à sa fin, mais nous ne nous quittons pas tout de suite, parce que nous avons le coup de cœur de Michel. Et pour ce coup de cœur, Michel nous propose un hommage à ce couturier de la musique qui est Christophe, avec Lou, extrait de son dernier album, Les Vestiges du Chaos, qui est très certainement pour Michel un des meilleurs disques de ces 10 dernières années.
Sur les dunes, on voit satellite of love. Au milieu de la plage, Lou fait du tai chi. Laurie joue du violon, du violon. Vend la musique, sa guitare amnésique, ciel comme un piano long. Laurie joue du violon, la radio dit de partir, mais Lou ça fait rire. Comme s'il voulait en finir, en finir. Lou finit son
et plonge dans l'eau de là.
For the movie, except the director. So you perform for the director. But you would have to really like this director a lot.
Je suis venu vous lire reviendra jeudi prochain, à la technique et à la programmation musicale Michel Yordanov, à la lecture et à la réalisation Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM, prenez soin de vous.